Sur ce poster, j'ai choisi d'aborder la question du prestige sous un aspect, sous un angle assez large, puisque ma réflexion porte aussi bien sur le mobilier que sur des monuments que l'on peut considérer comme prestigieux dans la Grèce de la seconde moitié du deuxième millénaire avant Jésus. Deux exemples sont exposés ici en premier, lors des tombes à Fos de Mycène et la sculpture de la porte des lions du même site. Bon, ce sont des exemples très fameux du monde mycénien. Mais ce choix s'explique surtout par le fait que le dépôt d'un riche mobilier et la réalisation d'un décor sculpté sont des moyens indéniables pour affirmer son prestige. En ce qui concerne les tombes à Fos de Mycène, qui sont en fait des tombes à appui d'axe vertical, vous n'avez ici qu'un simple aperçu du mobilier que l'on a trouvé dans ces tombes. On compte aussi des masques et de la vaisselle en or. De plus, le mobilier des tombes à Fos de Mycène comprend des armes en très grand nombre. Alors, l'accumulation de ces biens est aussi révélatrice que les catégories de biens représentés. En les déposant dans une tombe, les proches des individus inhumés montrent au reste de la communauté qu'ils sont suffisamment riches et puissants pour se passer de ces biens. Et cet acte permet de renforcer à la fois le prestige des individus inhumés que celui du groupe social auquel ils appartiennent. À Mycène même, la différence sociale semble très tranchée à l'époque des tombes à Fos, puisqu'elle semble reposer sur l'existence de deux groupes distincts, les riches et puissants d'un côté, ceux des tombes à Fos, et les autres de l'autre côté, puisque des tombes beaucoup plus modestes et assez rarement fournies en mobilier ont été découvertes non loin des tombes à Fos. Au niveau régional, alors les élites ne se valent pas. Quand je parle d'élites, c'est les groupes sociaux prédominants. Elles ne se valent pas en termes de richesse et de puissance, étant donné qu'aucun site continental de cette période ne peut rivaliser avec Mycène. Néanmoins, les élites d'Argolide accordaient certainement de l'importance à l'expression de leur position privilégiée. En effet, on a retrouvé des diadèmes dans deux tombes d'Argolide, l'une à Lerne et l'autre à Argos, qui datent d'avant la période palatiale. Ce sont des tombes de jeunes individus. Alors on peut voir là aussi la volonté d'exprimer dans le dépôt d'un objet prestigieux la position sociale prédominante d'une famille, bien plus que celle d'un individu. Alors on a évoqué les armes déposées dans les tombes à Fos de Mycène. Le phénomène des tombes à armes couvre toute la période mycénienne et se prolonge même après l'effondrement des palais. Il s'étend aussi au-delà de la Grèce continentale, comme en témoignent les tombes crétoises, près de Knossos. Le mobilier déposé dans une tombe peut certes refléter une croyance dans l'au-delà ou être aussi déposé pour s'attirer les faveurs d'une divinité, mais il fait également honneur aux défunts. C'est pourquoi la cuirasse de Dendra, ici, illustre bien mon propos. Seul un individu qui s'est distingué par ses actes a pu être enterré avec une telle panoplie. Il a dû se distinguer par ses aptitudes et ses victoires au combat. Mais cela ne signifie pas qu'il occupe forcément ou obligatoirement le sommet de la hiérarchie sociale. Dans le cas de Dendra même, la tombe dans laquelle le guerrier était inhumé n'est pas la plus grande, n'est pas la plus soignée. On trouve effectivement dans cette nécropole une tombe à Tholos et une tombe à chambre, creusée, plus riche en métaux. Alors, les tombes à Tholos, comme on en voit ici un exemple de Torikos, sont des monuments funéraires construits. Celle-ci mesure plus de 9 mètres de diamètre. Et ce sont les monuments funéraires les plus prestigieux du monde mycénien. J'aurais pu aussi mettre la photo de la tombe à Tholos de Marathon, qui mesure plus de 7 mètres de diamètre, parce qu'elle comprend deux inhumations de chevaux à l'entrée de son dromos, donc le couloir d'accès, cette fois-ci horizontal. Mais là aussi, même dans cette catégorie de tombes, tous les exemples ne sont pas égaux. Et on peut trouver aussi des tombes à Tholos, beaucoup plus modestes, plus petites. Et à ce moment-là, on peut se demander si les personnes inhumées pouvaient être comparées à celles qui sont inhumées dans les plus grandes tombes à Tholos. D'autres tombes peuvent très bien être aussi importantes, même des tombes à chambre. Comme le laisse supposer le mobilier de la tombe de Dendra, le prestige ne dépend pas seulement du statut social, mais aussi des faits et gestes. Et c'est ce que j'ai nommé sur le poster, le prestige par l'action. La force et le courage faisaient certainement partie des valeurs qui occupaient une place importante dans le monde mycénien. Comme l'usage d'armes et le recours à des aptitudes particulières rapprochent la chasse du domaine guerrier. Et effectivement, dans les palais, on trouve des scènes de combat ainsi que des scènes de chasse dépeintes sur les murs. Là, on a un exemple de Pylos, un exemple de chasse. On trouve également des scènes de combat et des scènes de chasse déjà sur le mobilier, représentées sur le mobilier des tombes à fosses de Mycène, sur des sceaux par exemple et sur une dague. Les thèmes représentés et aussi la qualité de l'exécution viennent renforcer le prestige de ceux qui pouvaient posséder de tels objets. Plus tard, et toujours dans le domaine funéraire, il y a certainement une scène de chasse représentée sur un sarcophage en terre cuite de Tanagra. Alors on peut se demander aussi si la représentation est-ce qu'il s'agit d'une représentation d'activité dans lequel a excellé le défunt, est-ce que c'est une représentation de l'au-delà, ou alors est-ce que c'est un moment des funérailles. Il faut vraiment se garder de proposer qu'une seule lecture pour ce genre de scène. En tout cas, faire honneur au défunt peut être également effectué durant les funérailles par un toast. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des fragments de coupe à l'entrée des dromos, et notamment surtout à la période palatiale. J'en ai pas d'exemple ici illustré. Il s'agit toutefois là d'un acte plus symbolique, je dirais, que prestigieux, qui marque la séparation avec le défunt. En effet, c'est la vaisselle, enfin, les coupes étaient en terre, et on n'a pas utilisé à ce moment-là, donc, et on n'a pas retrouvé dans les bruits, de vaisselle en métal. Hors du contexte funéraire, la consommation de boissons et de nourriture peut également susciter une forme de reconnaissance sociale, mais cette reconnaissance, ce prestige, dépend du cadre dans lequel elle s'est déroulée. Le cadre palatial pourrait conférer à des événements tels que des banquets ou d'autres manifestations, même par exemple une représentation musicale. On a à Pylos la représentation d'un musicien. Donne une aura particulière à ce genre d'activité. On peut dire que le faste déployé à l'occasion d'un festin dans un palais surpassera bien entendu celui d'un repas partagé dans un village. Néanmoins, on n'a pas de peinture murale qui nous renseignerait à ce sujet dans les palais. Et par exemple, on a une peinture avec des personnages portant des trépieds, mais on ne sait pas s'ils sont pleins, remplis de nourriture ou simplement vides et qu'ils sont amenés ici en tant que don ou offrande. Alors, on peut se demander effectivement qui bénéficiait de toutes ces ressources, qui a utilisé les nombreux vases et coupes, donc qui incluent des coupes contenues dans les réserves des palais. En tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est que le palais, en tant qu'institution et lieu de pouvoir de la ville des élites, était certainement le lieu prestigieux par prédilection. Si un individu devait être mis en valeur, ben ce serait le souverain mycénien, cité sur les documents d'Inerbé, le Wanaka. On aimerait bien trouver un édifice ou une peinture murale ou une tombe qui porterait une inscription qui comprendrait ce titre ou alors le titre d'un autre dignitaire, mais ce n'est pas le cas. Et évidemment, cette absence a ouvert sur toutes sortes de spéculations, notamment dans le domaine funéraire. Reste la présence à Tirinthe, Mycène et Pylos. Donc là, vous avez un exemple de Tirinthe, d'unités architecturales caractéristiques des palais mycéniens, les 10 Mégara, et qui comprennent une pièce munie d'un foyer central et qui sert de représentation. Ces pièces n'étaient pas visibles tout de suite, et pour y accéder, enfin, surtout à Mycène et à Tirinthe, le chemin est un peu tortueux. Mais ce que l'on voit en premier, en tout cas à Mycène et à Tirinthe, c'est les murailles, les fortifications imposantes de ces deux sites. Et dans le cas de Mycène, c'est en se rapprochant de l'entrée de ces fortifications que l'on voit la porte des lions. Voilà, donc ce sont ces éléments qui ont contribué en fait à forger le prestige des élites mycéniennes.
Merci.